Bonjour chers amis, en ce beau jour de la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, nous avons donc la leçon 10 qui a été reportée à partir d'hier sur les paraboles. Alors, vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais d'abord évoqué rapidement des paraboles invitant à la vigilance active qui nous disaient, et cela convient spécialement au temps de l'Avent, veillez, priez, soyez en tenue de service. Et puis, nous avions vu deux paraboles, une parabole double, en quelque sorte, d'invitation à la prévoyance, dans le cas où on veut construire une tour, et d'autre part, où on entrevoit de partir à la guerre. Quelle est la bonne sagesse, la bonne prévoyance pour arriver au bout de la construction de la tour, ou, si on n'a pas les forces, éviter la guerre. Mais finalement, la leçon que Jésus en tirait, avant et après, c'était pour dire, voilà les conditions pour être mon disciple, pour arriver à me suivre jusqu'au bout. L'interprétation de cette invitation à la prévoyance était de dire, la meilleure prévoyance, c'est de vous libérer, de vous détacher de tout ce qui vous entrave à la suite de Jésus, pour être sûr de pouvoir jusqu'au bout répondre à votre vocation de disciple. C'était là une parabole double, et puis une autre parabole double, puisque j'avais signalé que Luc aime bien parfois dédoubler des scènes, notamment avec une figure féminine, une figure masculine, et c'était le cas pour l'invitation à la prière. Une première parabole se trouvait au chapitre 11, parabole propre à Luc, où dans la foulée de l'enseignement du Notre Père, Jésus racontait l'histoire de l'ami importun qui ne craint pas de déranger l'autre pour avoir du pain. Et précisément, la finale était cet argument a fortiori, combien plus votre Père céleste donnera l'Esprit Saint à celui qui le lui demandera. Donc on voyait affleurer clairement le destinataire de la prière, c'est le Père, puisqu'on est juste après l'enseignement du Notre Père, et d'autre part, le bien par excellence à demander, à savoir l'Esprit Saint. Puis une autre invitation à la prière persévérante, engageait une figure féminine cette fois-ci, c'était celle au chapitre 18 de la veuve importune qui ne craint pas d'embêter le juge pour qu'elle lui rende justice jusqu'au bout. Et l'interrogation finale de Jésus disait que la persévérance dans la prière, c'est une question de foi, puisqu'il avait cette remarque, pourtant le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il de fait la foi sur terre, en Luc 18, le verset 8. Et nous avions vu que dans cette parabole, dont Luc annonçait la portée, il faut prier en tout temps et ne pas se décourager. Dans cette parabole, le juge inique, à un moment donné, se dit en lui-même, même si je ne crains pas Dieu, ne respecte pas l'homme, et bien parce qu'elle m'embête, je vais lui rendre justice. Il se dit ça en lui-même. Une expression qui revient alors dans une troisième parabole, invitant à la prière, non plus avant tout pour souligner l'importance de persévérer dans la prière, avec insistance, mais pour souligner, mettre en évidence l'esprit d'humilité qui doit habiter notre prière. C'était la parabole du pharisien et du publicain, dans la foulée de la parabole de la veuve importune. Donc c'est au chapitre 18, cette fois-ci les versets 9 à 14. Nous l'avions vu un peu rapidement à la fin de la leçon 9. Il dit aussi cette parabole à l'adresse de quelques-uns qui étaient persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient des justes et qui tenaient pour rien le reste des hommes. Voilà l'intention de la parabole dans le contexte où elle est énoncée. Deux hommes montèrent vers le temple pour prier. Le pharisien, debout, priait à l'adresse de lui-même. Et puis nous connaissons sa prière, il rend grâce en mettant en évidence son « je ne suis pas comme le reste des hommes, je jeûne deux fois par semaine, j'acquitte la dîme, etc. de tout ce que je possède ». C'est vraiment son « je » qui remplit sa prière, alors même qu'il est censé demander dans sa prière l'aide de Dieu, humblement, comme toute prière authentique. Ou en tout cas, s'il y a lieu de rendre grâce, c'est rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et pas pour se glorifier soi-même. Par contre, le publicain, qui se tient également debout, mais de loin, nous dit le verset 13, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, se battait la poitrine en disant « Ô Dieu », le même appellatif, « sois favorable à moi, le pécheur ». Et Jésus concluait « Celui-ci descendit justifié vers sa maison, à la différence de celui-là, parce que tout qui s'exalte lui-même sera humilié, tout qui s'humilie lui-même sera exalté. » Dans cette finale, ce verset 14, tous les mots portent, il descendit vers sa maison, ce qui répond à ce début, deux hommes montaient vers le temple pour prier. La prière achevée, le mouvement naturel, c'est on redescend chez soi. Celui-ci descendit vers sa maison, justifié. L'introduction nous a dit, Jésus parle à l'intention de ceux qui sont persuadés en eux-mêmes qu'ils sont des justes. Or, celui qui est déclaré par Jésus justifié, c'est justement le pécheur humble et repentant, et non pas le pharisien. À la différence de celui-là. Et puis, cette sentence qu'on trouve à d'autres endroits dans Luc, « Tout qui s'exalte lui-même sera humilié, tout qui s'humilie lui-même sera exalté. » Alors, vous voyez dans votre texte, il y a deux références. L'une renvoie au Magnificat de Notre-Dame. Il renverse les puissants de leur trône, mais au contraire, il élève les humbles. C'est ce renversement qui est déjà celui du Cantique d'Anne dans l'Ancien Testament, sur lequel Marie s'appuie dans la formulation de son Magnificat. Donc, on a trouvé ce contraste, celui qui s'élève sera abaissé et l'inverse dans le Magnificat, et puis on va le retrouver dans une parabole que nous allons aborder, celle des invités au repas. Eh bien, c'est ceux qui prennent les premières places spontanément, eh bien, qui vont être en quelque sorte déclassés à la dernière place. Nous en venons donc, si vous voulez, après ce bref rappel, à des paraboles que vous avez sur votre feuille de route numéro 37, qui complète le tableau, je dirais, de la suite des paraboles que nous avons parcourues, les numérotant. Alors nous allons parcourir les paraboles 29, 30, 31, 32, peut-être 33, ça dépend du temps. La parabole numérotée 29, c'est le choix des places et des invités. On vient de voir que Luc insistait avec le pharisien et le publicain sur l'humilité qui doit habiter notre prière. Nous trouvons ici l'invitation à l'humilité dans un autre contexte, celui d'un repas. Les repas, dans l'évangile de Luc et dans les actes des apôtres, sont souvent des moments importants et décisifs. Bien avant le repas à l'auberge d'Emmaüs, il y a eu, par exemple, en Luc 7, nous nous en souvenons, l'épisode de la pécheresse chez Simon le pharisien. C'est en plein repas qu'elle vient verser ses larmes de contrition et que Jésus, à ce propos, énonce la parabole des deux débiteurs. Donc, humilité, et ici, dans le cadre d'un repas. Nous prenons le texte, c'est en Luc, au chapitre 14, les versets 7 à 15. Vous avez ce texte sur la feuille de route numéro 38. Luc 14, verset 7. Je situe le contexte, puisqu'on sait qu'il est toujours important. Il arriva, je commence ma lecture au verset 1. Il arriva, pendant que lui, Jésus, était venu vers la maison de quelqu'un des chefs de pharisiens un sabbat pour manger le pain. Donc il est invité pour prendre son repas. C'est ça que signifie l'expression manger le pain. pour prendre son repas, et pas chez n'importe qui, chez un chef des pharisiens. Alors, eux étaient en train de le surveiller. Et voici, il y avait un certain homme hydropique devant lui. Jésus, prenant la parole, dit à l'adresse des légistes et pharisiens, « Est-il permis le sabbat de soigner ou non ?» Ceux-ci restèrent en repos. Jésus ayant saisi le malade, le guérit et le renvoya. Et à leur adresse, il dit, « De qui d'entre vous, le fils ou le bœuf, tombera dans un puits et ne le retirera-t-il pas aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils n'eurent pas la force de répliquer à ceci. Et puis, on va entrer, je vais dire un petit mot de commentaire de ces versets, mais juste après, là-dessus, on enchaîne sur la parabole. Et il disait à l'adresse des appelés, donc Jésus est toujours là, attablé, dans la maison du chef des pharisiens. Et au cours du repas, il y a eu un premier épisode, c'est celui de la guérison de cet homme hydropique. Et puis, il va y avoir une seconde séquence qui est l'énoncé de la parabole que Jésus va adresser à celui qu'il a invité, mais aussi à ceux qui sont invités, on va le voir. Avant d'en venir à la parabole, j'explique un peu quelques traits de ces six premiers versets du chapitre 14. Donc c'est un jour de sabbat, et Jésus va opérer une guérison. Or, il y a eu, en termes d'épisode, auparavant, dans le chapitre 13, donc relativement proche, la guérison, le jour du sabbat, d'une femme qui était courbée depuis 18 ans, et Jésus avait utilisé des arguments semblables. Homme au jugement perverti, puisqu'on lui reprochait de guérir le sabbat, lequel d'entre vous ne détache-t-il pas son bœuf, son âne, de la mangeoire pour le mener à boire? Et bien plus forte raison, cette fille d'Abraham, liée par Satan depuis 18 ans, il fallait la détacher de ce lien le jour du sabbat. Et voilà que, ça c'est au chapitre 13, au chapitre 14 c'est une figure masculine, un homme hydropique, que Jésus rencontre. Les gens, les chefs des pharisiens qui sont là présents, sont en train de le surveiller. Comme il est dit en deux autres épisodes, en Luc 6, 7, on avait déjà eu une guérison un jour du sabbat, et précisément d'un homme qui avait la main sèche. Donc c'était en Luc 6, verset 7, les scribes et les pharisiens le surveillaient, Jésus, qui était en face de l'homme à la main sèche, pour voir s'il soignait le sabbat et s'il trouverait quelque chose pour l'accuser. Lui connaissait leur débat. Alors il dit à l'homme de se placer au milieu, il le guérit. Et puis, déjà, donc en Luc 6, au verset 9, l'argument, je vous demande, est-il permis le sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la perdre? Donc l'enjeu du sabbat comme jour de vie est souligné là-bas, et c'est ce qui se passe ici, de nouveau, dans le contexte du chapitre 14, est-il permis le sabbat de soigner ou non? Et puis, l'expression « ils sont en train de le surveiller », donc on voit que c'est une attitude qui est soulignée quelquefois dans l'Évangile de la part des contradicteurs de Jésus. Les scribes et les pharisiens cherchent à mettre la main sur Jésus, ils ont peur du peuple, et en 20, verset 20, l'ayant surveillé, ils envoyèrent des espions en feignant d'être eux-mêmes des justes, pour saisir une de ses paroles et le livrer à l'autorité du gouverneur. Donc, cette attitude qui épie Jésus, et alors qu'eux-mêmes feignent d'être des justes. Je vous ai rappelé cette importance du terme le publicain, celui qui rentre finalement justifié, et non pas celui qui se croit juste, ou bien là au chapitre 20, qui fait semblant d'être injuste. Ceci dit, pour faire écho à quelques passages connexes dans l'Évangile, est-il permis le jour du sabbat de soigner ou non? Il le saisit, le guérit, le renvoya, et puis l'argument déjà rencontré pour la guérison de la femme courbée au chapitre 13, qui d'entre vous n'a son bœuf ou son fils, qui qui va, le jour du sabbat, le retirer. Puisque si le sabbat est fait pour la vie de l'homme, ou même des animaux, eh bien, on ne va pas les laisser périr dans le fond d'un puits, même si c'est le jour du sabbat, c'est une évidence. Et de fait, il se rend dans l'argument, au verset 6, ils n'eurent pas la force de répliquer à ceci. Donc on voit dans quel climat, à la suite de ce premier épisode au cours du repas, Jésus énonce la parabole, que je lis maintenant, au verset 7. Il disait à l'adresse des appelés une parabole, en remarquant comment ils choisissaient les premiers divans. Il disait à leur adresse, « Quand tu as été appelé par quelqu'un à des noces, ne te couche pas à table au premier divan, de peur qu'un plus estimé que toi n'ait été appelé par lui. » Et étant venu, celui qui t'a appelé, toi et lui te dira, donne ta place à celui-ci. Et alors tu commenceras avec honte à occuper la dernière place. Mais quand tu as été appelé, ayant fait route, allonge-toi, table, à la dernière place, afin que, quand il sera venu, celui qui t'a appelé te dise, ami, monte en avant, plus haut. Alors il y aura pour toi plus de gloire, en présence de tous ceux qui se trouvent attablés avec toi. Parce que tout qui s'exalte lui-même sera humilié, et celui qui s'humilie lui-même sera exalté. Il disait aussi à celui qui l'avait appelé, quand tu fais un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni ceux de ta parenté, ni des voisins riches, de peur que aussi t'appellent en retour et qu'il t'arrive une contrepartie. Mais quand tu fais une réception, appelle des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et toi tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te donner contrepartie. Car il te sera donné contrepartie à la résurrection des justes. Je lis encore les versets qui suivent. Ayant entendu, c'est la réaction d'un convive, quelqu'un de ceux qui se trouvaient attablés avec lui dit « Heureux celui qui mangera le pain dans le royaume de Dieu. » Et puis, on va voir la parabole de celui qui fait un festin et qui invite à ce festin que nous verrons ensuite. Et donc, qui enchaîne sur celle que je viens de lire. Je commente brièvement ces versets 7 à 14. Donc le contexte, Jésus remarque les gens qui prennent les premières places et dès lors, il a une parole vigoureuse. Quand tu as été appelé par quelqu'un à des noces, ici il a été appelé pour un repas ordinaire, un jour de sabbat, mais Jésus évoque l'invitation à des noces, ce qui prépare aussi la suite. Donc c'est souligné un repas d'importance. Ne te mets pas au premier divan, de peur que celui qui t'a appelé, pour marquer l'importance, la fréquence du verbe appeler, pour dire comment Dieu appelle, comment Dieu invite. Au verset 7, à l'adresse des appelés. Au verset 8, quand tu as été appelé par quelqu'un à des noces. Verset 9, celui qui t'a appelé. 10, quand tu as été appelé. Et encore, celui qui t'a appelé viendra. Et encore au verset 12, de peur que aussi t'appelle en retour. Et au début du verset, il dit à celui qui l'avait appelé, mais toi, quand tu fais une réception, appelle, dépose et estropie. Donc, une dizaine de fois, pratiquement dans chaque verset, ce verbe décisif qui envisage l'invitation au repas comme un appel. Mais justement, il y a la manière de répondre à l'appel. Mets-toi à la dernière place. Alors au verset 10, afin que, quand tu seras appelé, Sœur Jeanne d'Arc, qui est une bonne traductrice, dit en sorte que, pour éviter qu'on comprenne, il faut faire une espèce de calcul en se disant ben, je vais me mettre à la dernière place et c'est comme ça qu'on va m'appeler à la première. Ce qui serait quand même un peu de la fausse modestie calculée. C'est pas ça la pointe. La pointe, c'est. Dans le dicton repris au verset 11, tout qui s'exalte lui-même sera humilié, mais celui qui s'humilie sera exalté. Alors, ce qui est dit au verset 10, ami, monte en avant plus haut, voyez qu'il y a une référence au livre des Proverbes, au chapitre 25, les versets 6-7. Et de fait, au livre des Proverbes, dont Jésus sans doute s'inspire ici, il y a une situation analogue. Je vous lis ce verset de Proverbes, ces deux versets de Proverbes, chapitre 25, versets 6-7. En face du roi, ne prends pas de grands airs. Ne te mets pas à la place des grands, car mieux vaut qu'on te dise « monte ici » que d'être abaissé en présence du prince. Donc ça, c'est dans Proverbes 25, un arrière-fond, qui semble être quand même sous-jacent à ce que Jésus dit ici. Et alors, celui qui t'a appelé, si tu t'es mis, te dira, monte en avant. Après ce passage, donc avec, qui se termine par ce que je dis être pratiquement devenu un dicton, qui s'exalte lui-même sera humilié, qui s'humilie sera exalté, un dicton de la part de Jésus, donc qu'on a rencontré dans le Magnificat, qu'on rencontre ici, et qui est dans l'esprit, une parenthèse au passage, de l'hymne aux Philippiens. Jésus, tout fils qu'il était, savait ça, prenant la condition des hommes, donc l'humiliation de Jésus, c'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a élevé au-dessus de tout nom, etc. Le mouvement même d'abaissement, d'humiliation de Jésus en sa passion, qui va en retour le conduire à la glorification de sa résurrection. Je ferme la parenthèse, mais on voit le poids aussi christologique, si on applique ce que Jésus dit, si on l'applique à lui-même, l'humiliation qu'il s'apprête à vivre dans sa passion, eh bien, la manière dont son Père, en retour, l'exaltera. Puis Jésus se tourne non plus simplement vers les invités, pour les inviter, c'est le cas de le dire, à une attitude humble, il interpelle aussi celui qui l'a appelé. Quand tu fais un dîner, ou un déjeuner, eh bien, n'invite pas tes amis, ta parenté, tes voisins, etc. Parce que ils te rendront, tu es sûr qu'ils te rendront la contrepartie dès ici-bas. Or, Jésus, à d'autres endroits, insiste sur l'aspect de gratuité dans le bien qu'on fait aux autres, sans attendre un retour. S'ils sont de riches fortunés, tu es sûr qu'ils vont te rendre un retour. Tandis que des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, eh bien, tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te donner en contrepartie. Et les catégories ici énoncées, vous voyez que Jésus fonctionne par énumération, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté, tes voisins, quatre termes. Et ici, invite au contraire, quatre termes, des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Souvenez-vous que chez Saint-Luc, il y a un discours inaugural dans la synagogue de Nazareth, au chapitre 4, où Jésus reçoit le passage d'Isaïe, qui va définir un peu sa mission comme programmatique dans tout l'Évangile. Je lis ce verset au chapitre 4 de Luc, dans la synagogue de Nazareth. C'est au verset 18. Déroulant le rouleau, Jésus trouve l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a donné l'onction pour annoncer la bonne nouvelle à des pauvres. Il a fait son envoyé de moi pour proclamer à des captifs la liberté, la rémission à des la liberté, à des aveugles le retour à la vue, ceux qui sont broyés mettre en liberté, proclamer une année de bienfait par le Seigneur. » Autrement dit, dans cette citation d'Isaïe, où on entend Jésus ouvrir publiquement la bouche dans la synagogue de Nazareth, se profile comme destinataire privilégié de sa mission, justement, des pauvres, des captifs, des aveugles, etc. Et ce seront encore les catégories qu'on va trouver énumérées au chapitre 7, au moment où il est question de l'agir de Jésus, puisque des envoyés du Baptiste lui demandent. Jésus vient de guérir des malades, des infirmes, des hommes possédés d'esprits méchants et des aveugles. C'est le chapitre 7, le verset 21. Et là-dessus, Jésus dit, eh bien, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont réveillés, et à des pauvres, la bonne nouvelle est annoncée. Donc l'agir de Jésus met de fait en œuvre ce qui a été annoncé dans la citation d'Isaïe, et il nous invite à notre tour, lorsque nous invitons des gens à un repas, à être attentifs à cette catégorie de tous ces pauvres, ces marginaux, qui doivent être convoqués au repas, et pas n'importe lequel, un repas de noces. Et tu seras heureux. C'est la béatitude promise. Non pas qu'ils te rendent ici-bas, ils ne pourront pas le faire, mais il te sera donné contrepartie à la résurrection des justes. Récompense dans l'au-delà. Là-dessus, un des convives s'exclame, en reprenant le mot de béatitude de Jésus, « Heureux qui mangera le pain dans le royaume de Dieu. » Vous avez bien compris que ce n'est pas qui mangera le pain à ta table ici-bas, simplement, mais qui mangera le pain à ta table dans le royaume de Dieu. Là-dessus, et c'est la parabole suivante à laquelle nous passons, numéro T30, l'invitation au festin. Il s'agit cette fois-ci d'insister sur la capacité d'honorer l'invitation, de répondre à l'accueil. Le repas chez les pharisiens était l'occasion d'inviter à une attitude humble, qui prend plutôt la dernière place de la part des convives, et à une attitude de désintéressement de la part de celui qui invite dans l'attention portée aux plus petits, qui vont encore réapparaître à un moment donné ici dans cette seconde parabole qui engage un repas, un festin. Je la lis d'abord, si vous voulez. Jésus, donc, à l'homme qui vient de lui dire, heureux qui mangera le pain dans le royaume de Dieu, eh bien, Jésus reprend la parole et dit, un certain homme faisait un grand dîner et il appela beaucoup de gens. Il envoya son serviteur à l'heure du dîner dire aux appelés, venez, parce que déjà tout est prêt. Et ils commencèrent tous d'une seule voix à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, j'ai nécessité, étant sorti, de le voir. Je te demande, tiens-moi excusé. Et un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, et je fais route pour les examiner. Je te demande, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit, j'ai épousé une femme, et en raison de ceci, je ne peux pas venir. Et s'étant rendu auprès de lui, le serviteur rapporta ceci à son seigneur. Alors, s'étant mis en colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Sors rapidement vers les places et les rues de la ville, et les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Et le serviteur dit, « Seigneur, ce que tu commandas est arrivé, et il y a encore de la place. » Le seigneur dit à l'adresse du serviteur, « Sors vers les chemins et les clôtures, force les gens à entrer, afin que soit remplie ma maison. » Car je vous le dis, personne de ces hommes-là, qui étaient les appelés, ne goûtera de mon dîner. Vous remarquerez d'abord comment le personnage qui invite est dénommé. Au verset 16, c'est un certain homme. Puis, le serviteur va rapporter les choses à son seigneur. Au verset 21, le serviteur rapporta, donc les refus successifs, rapporta ceci à son seigneur. Puis, il est encore qualifié du maître de maison. C'est un dîner d'importance, un grand dîner, et il appela, on retrouve ce verbe, sur lequel se terminera la parabole au verset 24, ceux qui étaient les appelés, eh bien, aucun de ceux-là ne goûtera de mon dîner. Et ceux-là qui ont refusé l'appel, précisé. Il en appela beaucoup. Il envoie son serviteur, à l'heure du dîner, dire, mon repas est prêt. C'était la coutume de lancer une invitation, de dire à peu près quand le repas serait prêt, et on attendait que le repas soit prêt pour aller, en tout cas dans un contexte proche, où on pouvait rapidement, dans le village, rappeler les gens, les rencontrer, on envoyait des serviteurs pour leur dire, cette fois-ci, vous pouvez venir vous mettre en route, le repas est prêt, on vous attend. Mais ils commencèrent à s'excuser, une excuse de type économique, un champ, de même pour la paire de bœufs, et puis une excuse, on pourrait dire, c'est une excuse de victime, c'est une femme, en raison de ceci, je ne peux venir. A contrario, on pourrait dire que si Jésus prend un cas presque aussi flagrant, où on pourrait légitimement refuser, c'est pour faire saisir l'importance de l'invitation, qui est même plus grande que ce cas-là, qui est évoqué, vous avez la référence dans votre texte, au Deutéronome, au chapitre 20, le verset 7. Je vous lis ce verset. Ici. Et qui dit la réaction spontanée que l'on aurait en disant, ben oui, qu'il aille auprès de son épouse. Le Deutéronome, chapitre 20, verset 7, dit: qui a planté une vigne et n'en a pas encore cueilli les premiers fruits, qu'il s'en aille, il retourne chez lui, de peur qu'il ne périsse au combat. On est dans la situation où quelqu'un risque d'être convoqué à la guerre, et qu'un autre ne cueille les premiers fruits. Verset 7, qui s'est fiancé à une femme et ne l'a pas encore épousée, qu'il s'en aille, il retourne chez lui, de peur qu'il ne périsse au combat et qu'un autre ne l'épouse. Donc l'urgence là, à aller auprès de son épouse. Et bien, Jésus a l'audace d'utiliser, de répondre à celui qui dit « j'ai épousé une femme » et « présente ceci, je ne peux pas venir », et bien d'estimer que, vu l'importance de l'invitation au repas, et bien ce n'est même pas une excuse qui tienne. Le serviteur rapporte ceci à son Seigneur, celui-ci réagit en demandant, vous l'avez remarqué au passage, qu'on parte en contexte urbain, va sur les places et les rues de la ville et solliciter justement la catégorie des gens dont j'ai dit un mot à l'instant, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Et puis après, va intervenir un élargissement puisqu'il reste encore de la place, au public des champs, sort par les chemins et les clôtures. Donc, les gens des villes et les rats, les gens comme dans la parabole de la fontaine, mais les gens des campagnes. Donc, une invitation qui veut vraiment ratisser large et toujours auprès des plus pauvres et de ceux qui ne s'attendaient pas à bénéficier d'une telle invitation à participer à ce repas. L'intention, je veux que ma maison soit vraiment remplie. En 1335, il était question aussi d'une maison qui est le temple lui-même, là où Jésus se lamente sur Jérusalem, donc c'était un petit peu avant, au chapitre précédent, en 1335, voici, votre maison vous est laissée déserte, et vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À ce moment-là, eh bien, on retrouvera la présence. Mais ici, en attendant, le maître souhaite que, précisément, sa maison soit remplie, et remplie non pas de ceux qui ont refusé l'invitation, mais de ceux qui se voient sollicités parmi les plus pauvres. Avec l'avertissement sévère, à la fin, personne de ces hommes qui sont appelés ne goûtera de mon dîner. Et qui dit cela? Au verset 24, je vous le dis, on peut penser que c'est Jésus, ce n'est pas à exclure, ce n'est pas simplement le personnage de la parabole. Puisque le personnage de la parabole, au verset 23, il s'adresse à son serviteur, le Seigneur dit à son serviteur, au serviteur, sort sur le chemin, etc. Et puis tout d'un coup, il y a un « vous » qui surgit, car je vous le dis. Donc on peut penser qu'à ce moment-là, le « je » qui s'exprime est la manière finale dont Jésus lui-même commente la portée de la parabole. « Je vous le dis, à vous qui entendez cette parabole, personne de ceux qui étaient appelés ne goûtera de mon dîner. » Qui serait une manière, évidemment, de nous faire comprendre que nous aussi, nous avons à prêter attention à cette invitation, cet appel qui nous est adressé. Si vous voyez la manière dont la TOB, ou la traduction œcuménique de la Bible, ou la Bible de Jérusalem, place les guillemets, eux, ils incluent encore cette parole comme étant le fait du maître de maison. Mais on sent qu'on glisse de l'identification du maître de maison à Jésus lui-même. Ça, c'est pour l'invitation au festin. Alors, je vous ai mis aussi, pour que, on ne va pas s'y attarder trop longtemps, mais la version de Matthieu, hein, son chapitre 22. Puisque là, c'est quand même une parabole, alors que la précédente était propre à Luc, celle-ci se trouve également chez Matthieu. Chez Matthieu, c'est au chapitre 22. C'est dans la foulée de la parabole des vignerons homicides. Donc le contexte est quand même empreint de gravité. 22, chez Matthieu, verset 1, Jésus, de nouveau, leur dit en parabole. Et on vient de dire qu'il a comme interlocuteur les grands prêtres, les pharisiens et aussi les foules. Le royaume des cieux a été assimilé à un homme, roi, lequel fit des noces à son fils. Là, le repas en question, c'est non seulement un repas de noces, mais un repas de noces qui est tout à fait extraordinaire, puisqu'il s'agit des noces du fils du roi. Et bien sûr, dans le contexte où il s'exprime, Jésus fait comprendre qu'il est ce fils du roi. Il s'agit de répondre à l'invitation à participer à ces noces. Puisque dans la parabole précédente, comme je le disais, c'est le fils même du maître de la vigne qui est mis à mort. Donc une entrée en matière qui situe d'emblée une lecture en sorte christologique, si l'on peut dire, de l'appel à ces noces. Il envoya ses serviteurs appeler les appelés vers les noces. Et ici, le vocable de noces chez Matthieu va intervenir une dizaine de fois sur l'ensemble. Alors, le déroulé de l'histoire est similaire à ce qu'on trouve chez Luc. La réaction sévère, le roi, vu le refus de venir au repas, et même le fait qu'on se saisit de ses serviteurs, qu'on les injurie, qu'on les tue, au verset 6. Donc on prolonge quand même le caractère dramatique de la parabole des vignerons homicides. Les serviteurs envoyés pour inviter aux noces, eh bien on va jusqu'à les injurier et les tuer. Le roi, irrité, mente ses troupes, perdit ses meurtriers, incendia leur ville. C'est sans doute une allusion quand même à la chute de Jérusalem, proche de là, et dit à ses serviteurs, la noce est prête, mais les appelés n'étaient pas dignes. Verset 9, allez donc sur les départs des chemins et tous ceux que vous trouverez, appelez-les vers les noces. Ses serviteurs étant sortis sur les chemins, assemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les méchants et les bons. Et la noce fut remplie de gens attablés. Vous voyez que c'est des petites différences, mais qui sont parlantes par rapport à des accents. Chez Luc, il s'agit d'inviter d'abord les pauvres, les estropiés, les boiteux, etc. Ici, c'est tout, les méchants et les bons. En Matthieu, Jésus a dit, mon Père céleste, il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Toutes catégories confondues. Mais alors, il y a une coda, un ajout, une finale qui est propre à Matthieu, au verset 11. Étant entré, considérer les gens attablés, le roi vit là un homme qui n'est pas vêtu du vêtement de noces. Il lui dit, compagnon, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noces? Or, il se tut. Alors le roi dit au servant, lui liant pieds et mains, jetez-le dehors vers la ténèbre extérieure. Là sera le pleur et le grincement des dents. Car beaucoup sont appelés, peu sont élus. C'est là aussi une sorte de leitmotiv, comme tout qui s'abaisse sera élevé, tout qui s'élève sera abaissé, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, dans cette finale, pour bien comprendre, il faut savoir que la coutume était qu'à l'entrée de la salle de noces, on recevait une sorte de survêtement pour participer aux noces. Et le recevoir, c'était entrer dans l'esprit de la noce. Donc ce qui est reproché à cet homme, n'ayant pas le vêtement, comment es-tu entré ici ? Mais il est venu uniquement pour le repas, mais sans entrer vraiment dans l'esprit de la noce, qui est la noce du fils du roi. Ou alors la sévérité de ce qui est dit ici. L'homme se tait, tout comme les adversaires de Jésus, un peu plus loin, se tairont lorsque ils seront incapables de lui répliquer. Voilà pour deux paraboles d'invitation à un festin. D'abord, chez Luc, c'était Jésus qui se trouve invité chez un pharisien. Il en profite pour enseigner, notamment à la faveur d'une parabole. Et puis, suivez la parabole des invités au repas de noces. Et ici, chez Matthieu, le repas des noces du fils de roi lui-même, auquel il faut pouvoir consentir à accueillir l'invitation. Nous prenons, si vous le voulez, nous avançons les paraboles qui vont engager la considération sur la richesse, 31 et 32. Le riche et ses greniers, le riche et Lazare. Là, nous revenons à Luc. Vous voyez qu'au passage, nous sentons quand même des accents de Luc, l'insistance sur la prière, l'insistance sur l'attention à prêter aux plus petits. Et maintenant, on va passer à la question explicitement des richesses. Donc, je reviens à Luc, au chapitre 12, le riche et ses greniers. Jésus vient d'inviter à ne pas s'inquiéter du lendemain. Il disait au chapitre 12, verset 22, à l'adresse de ses disciples, « Ne vous inquiétez pas pour la vie, de quoi manger, ni pour le corps, de quoi l'habiller. La vie est plus que la nourriture, le corps plus que la vie. » Et Jésus avait déjà des images paraboliques remarquées, les oiseaux, les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Dieu les nourrit, et ils n'ont pas de cave ni de grenier, qui va revenir dans la parabole que nous allons voir, et pourtant Dieu les nourrit. Combien plus vous l'emportez sur des oiseaux. Vous ne pouvez pas non plus ajouter en vous inquiétant à votre taille. Et concernant le vêtement, remarquez les lys des champs qui ne filent ni ne tissent, et bien même Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas vêtu comme l'un d'eux. Combien plus, homme de peu de foi, Dieu ainsi pourvoira à vos besoins. Ne cherchez pas sans arrêt que manger, que boire, ne soyez pas préoccupés. Votre Père sait que vous avez besoin de ceci. Cherchez d'abord son royaume et cela vous sera ajouté. Là-dessus, Jésus va, quelques versets plus bas, inviter, on commence à toucher le thème du détachement et du partage des biens. Vendez ce qui se trouve à vous. Donc, je suis au chapitre 12, le verset 33. « Vendez ce qui se trouve à vous, donnez-le en aumône. Faites-vous à vous-même des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne fait pas défaut dans les cieux. Là où le voleur ne s'approche pas, ni la mite ne corrompt, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Puis, l'avertissement à avoir sa lampe allumée pour accueillir le Seigneur, être prêt quand il viendra. Puis, nous avançons. Pierre dit, « Seigneur, dis-tu la parabole du voleur à notre adresse ?» Et Jésus fait comprendre, on a vu cela, qu'il l'a dit à l'adresse de tous, mais spécialement à l'adresse de Pierre. J'en viens aux riches et ses greniers. En fait, la parabole, j'ai été distrait, précède le passage que je viens de vous dire, de vous lire. Donc l'invitation à partager, à donner, c'est faire des trésors dans les cieux, vient juste après. Et venons-en à la parabole donc, qui précède ce que je viens de dire. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, verset 13, « Dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Jésus lui dit, « Homme, qui m'établit juge ou partageur sur vous ?» Il leur dit, « Voyez, veillez à rester loin de toute cupidité, parce que ce n'est pas du fait que quelqu'un surabonde que sa vie est garantie par ce qui se trouve à lui. » Et il dit d'une parabole à leur adresse. Le pays d'un certain homme riche porta des fruits abondants. Il débattait en lui-même en disant, « Que faire ? Parce que je n'ai pas où j'assemblerai mes fruits. » Et il dit ceci, « Je ferai ceci, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai les plus grands, j'assemblerai là tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, « Âme, tu as de nombreux biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, fais la fête sans cesse. » Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, on te redemande ton âme. Or, ce que tu as prêtas, pour qui sera-ce ? Ainsi, celui qui thésaurise pour lui-même et qui ne s'enrichit pas en vue de Dieu. » Et c'est là-dessus alors que vient l'invitation des disciples à ne pas s'inquiéter, à ne pas thésauriser et à garder l'usage de leurs biens, notamment pour faire l'aumône. Quelques traits. Homme qui m'a établi juge entre vous. Le Seigneur Jésus est venu sur terre non pas pour régler les questions d'héritage. Ce qu'il a à dire, c'est d'éviter une cupidité telle que les questions d'héritage engagent des conflits infinis. Non pas que l'homme qui interpelle Jésus n'ait pas droit à son héritage, c'est fort possible, mais Jésus sent bien que derrière la demande, il y a un cœur qui n'est pas suffisamment détaché des richesses. D'où sa réplique et dans ce contexte, l'invitation à se garder de toute cupidité. Et puis, l'histoire, et l'homme pense avoir assez pour terminer ses jours dans la quiétude, mais le Seigneur rappelle, et c'est dans l'esprit de ce qu'on trouve par exemple dans l'écrit de sagesse de Ben Sirac, le Siracide, ce que tu as, eh bien tu ne sais pas après ta mort quel usage en sera fait, donc ne commence pas à accumuler indéfiniment, profite des biens dont tu disposes maintenant pour les mettre suffisamment, en tout cas à disposition aussi des autres. On voit des empires financiers qui après le décès de leur possesseur partent à volo et en tout cas ne profitent pas à des gens qui sont dans le besoin. Ce que tu as prêté pour toi, que sera-ce ? On va lire ce passage du Siracide. Je passe alors à, parce que je vois que le temps s'écoule, à la parabole que vous connaissez bien, mais qu'on gagne toujours à réentendre du riche et de Lazare. C'est au chapitre 16. Et là, de nouveau, c'est une parabole propre à Luc. Jésus va dire la parabole de l'homme riche dans la foulée de ces versets qui précèdent et que je vous lis. Il y a eu l'histoire de l'intendant qui s'est montré assez habile pour se sortir d'un mauvais pas parce qu'il avait dilapidé les biens de son maître. Et Jésus a loué cet intendant pour son habileté, non pas sens d'un esprit retors, mais en tout cas pour l'appuyer d'un argument. Si les fils de ce monde sont déjà assez malins pour s'en sortir sur des choses matérielles, eh bien combien plus les fils du royaume doivent-ils faire preuve, les fils de la lumière, doivent-ils être avisés pour la bonne cause, celle du royaume. Et là-dessus, Jésus a déjà mis en garde contre l'usage mauvais de l'argent. Au verset 13, « Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou il sera rivé à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être au service de Dieu et du capital. » C'est le mot que le père Adair a choisi pour rendre le terme grec qui désigne l'argent. Vous ne pouvez pas être au service de Dieu et du capital. Entendant ceci, les pharisiens, verset 14, qui étaient amis de l'argent, se moquaient de lui. Donc Jésus sait bien que les pharisiens ne sont pas tout à fait détachés du bien matériel. Se moquaient de lui. Il leur dit, vous êtes, vous, de ceux qui se justifient eux-mêmes. Tiens, on a déjà rencontré cela. En présence des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est élevé pour des hommes est abomination en présence de Dieu. Etc. Et puis, là-dessus, trois versets plus bas, arrive la parabole. Donc, les pharisiens qui sont amis de l'argent sont censés être là et l'entendre. La parabole. Or, un certain homme était riche. Il avait des vêtements de pourpre et de lin fin, faisait sans cesse la fête, chaque jour, splendidement. Or, un certain pauvre, du nom de Lazare, se trouvait étendu auprès de son porche, se trouvant couvert d'ulcères, et désirant se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens aussi, venant, léchaient ses ulcères. Or, il arriva au pauvre de mourir et d'être emporté, lui, par les anges, vers le sein d'Abraham. Or, le riche mourut aussi et fut enterré. Et dans les enfers, ayant levé les yeux, se trouvant dans les tortures, il voit Abraham de loin et Lazare en ses seins, et lui, ayant donné de la voix, dit « Père Abraham, prends pitié de moi et mange Lazare afin qu'il plonge le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchisse ma langue, parce que je suis tourmenté dans cette flamme. » Or Abraham lui dit, « Enfant, souviens-toi que tu reçus en retour tes biens en ta vie, et Lazare semblablement les maux. Et maintenant, ici, il est consolé, or toi, tu es tourmenté. Et en tout ceci, entre nous et vous, un grand gouffre se trouve établi, de façon de ceux qui veulent franchir d'ici vers vous ne le peuvent, ni non plus de là vers nous, on fasse la traversée. Or il dit, je te demande donc, Père, que tu le mandes dans la maison de mon Père, car j'ai cinq frères, de façon qu'ils le rendent témoignage, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi en ce lieu de torture. Or Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. Celui-ci dit, non pas, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts fait route vers eux, ils se convertiront. Or, il lui dit, s'ils n'entendent pas Moïse et les prophètes, pas même si quelqu'un s'est dressé des morts, ils ne seront persuadés. On connaît bien cette histoire, mais c'est quand même toujours, chaque fois, impressionnant de la réentendre. Un certain homme était riche et on donne à sentir de manière palpable sa richesse, les vêtements de pourpre et de lin fin, faisant la fête, et splendidement, et cela chaque jour. Et le contraste, évidemment, du pauvre Lazare à sa porte, couvert d'ulcères, n'ayant rien, et les chiens venant lécher ses ulcères. Donc, un tableau préliminaire volontairement contrasté. Dur à entendre. Il arriva au pauvre de mourir, d'être emporté par les anges vers le sein d'Abraham, le riche aussi, et de lui on dit simplement il est enterré. Là aussi, l'expression lapidaire souligne quand même un grand contraste. Abraham est une grande figure. Hein, pour Zachée, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Cette femme courbée, qui était fille d'Abraham, ne fallait-il pas la redresser? Et c'est en présence d'Abraham que va se dérouler alors le dialogue. Dans les enfers, ayant levé les yeux dans les tortures, il voit Abraham et Lazare en son sein. Donc Lazare accueillit vraiment dans la proximité, l'intimité affectueuse d'Abraham. Mais lui donne de la voix et va intervenir par trois fois. D'abord, envoie Lazare plonger son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue. Mais Abraham fait comprendre qu'un grand fossé se trouve et qui n'est que le reflet, bien sûr, du fossé que lui-même, de son vivant terrestre, a mis entre lui et Lazare en l'ignorant complètement, alors même qu'il était à sa porte. Et pourtant, à ce moment-là, il a connaissance du prénom de Lazare. Le nom de l'homme riche, on ne connaît pas. Lazare, dès le début, ce pauvre, il a un nom. Et à ce moment-là, le riche s'en souvient. Donc il ne peut pas dire, semble-t-il, qu'il ne connaissait même pas son nom. Père Abraham prend pitié et mange Lazare, plongé son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue. Il est impossible de franchir ce qui a été creusé comme gouffre. Deuxième demande. Je te demande donc, Père, il s'adresse dans une attitude filiale à Abraham, je te demande, Père, que tu le demandes dans la maison de mon Père, car j'ai cinq frères. Bon, là, il se soucie un peu de ses frères, mais il aurait pu se poser la question auparavant, qui est mon frère, est-ce que ce n'est pas aussi Lazare à ma porte? Là, il a cinq frères, il voudrait leur éviter ce lieu de torture. Abraham les renvoie simplement à l'Écriture. Ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? Moïse, où on a la loi divine qui spécifie toutes les questions d'attention, notamment aux pauvres, de partage, et les prophètes qui sans cesse rappellent l'importance de mettre en œuvre ce que demande la loi. Eh bien, qui les écoute? Troisième réplique, non pas envers Abraham, mais si quelqu'un des morts fait route vers eux, ils se convertiront. Eh bien, Jésus fait comprendre que si on n'a pas été capable d'entendre ce que demandaient d'élémentaire attention aux pauvres les Moïse et les prophètes, même si quelqu'un vient de chez les morts, ils ne seront pas persuadés. Pour marquer l'expression, si quelqu'un s'est dressé des morts, ils ne seront pas persuadés, Jésus commence à annoncer, bien sûr, sa résurrection. Pour ceux qui entendent l'Évangile après sa résurrection, bien, et rappelez que si leur cœur est à ce point endurci, notamment des Juifs qui connaissaient bien la Bible, qui n'ont pas sur ce point écouté Moïse et les prophètes, on ne voit pas pourquoi tout d'un coup ils seraient capables d'écouter la voix même du ressuscité. Là, cette annonce voilée qui est quand même présente un peu entre les lignes. Alors, pour terminer, je souligne ceci. Jésus a dit auparavant, on l'a vu dans une des paraboles, faites-vous des amis avec l'argent qui puissent vous recevoir dans les demeures éternelles. Faites-vous des amis, non pas simplement qu'ils puissent vous rendre en retour sur cette terre, mais avec l'argent de ce monde, faites-vous des amis qui puissent vous recevoir dans les demeures éternelles. Cela peut nous renvoyer au verset du chapitre 10, le verset 25, d'une part. L'homme qui aborde Jésus pour le mettre à l'épreuve en demandant « Comment, que dois-je faire pour hériter d'une vie éternelle ?» Et Jésus va faire comprendre qu'il faut aimer le prochain et donner la parabole du bon samaritain. Donc l'enjeu, c'est d'entrer dans la vie éternelle. Et puis, en 16, au verset 9, moi je vous le dis, faites-vous à vous-même, à partir du capital de l'injustice, c'est la manière dont Jésus désigne l'argent de ce monde, qui est souvent objet d'injustice, du capital des biens terrestres, faites-vous à vous-même, les amis, à partir du capital de l'injustice, qui, lorsque celui-ci aura fait défaut, vous reçoive dans les tentes éternelles. L'homme, vous vous en souvenez, se demandait, l'intendant, comment vais-je m'en sortir ? Mais je vais me faire des amis en minimisant leurs dettes, de telle manière qu'une fois évacué de mon poste, ils me reçoivent chez eux. Et Jésus conclut, faites-vous des amis qui vous reçoivent non pas dans leur demeure chez eux, lorsque vous serez maintenu, mais qui vous reçoivent dans les demeures éternelles. Et je crois que c'est une annonce voilée de la finale de la parabole que nous venons de lire, puisque celui qui est accueilli dans les demeures éternelles, c'est Lazare. Autrement dit, si le riche avait vu Lazare et lui avait prêté attention et s'en était fait un ami sur cette terre, eh bien Lazare, dans le sein d'Abraham, aurait pu le recevoir dans les demeures éternelles. Mais comme il n'a pas usé de son bien terrestre pour justement se faire des pauvres des amis, eh bien, il est trop tard, il ne pourra pas accéder aux demeures éternelles. Voilà, merci de votre attention. Je termine sur cet avertissement un peu sévère de Jésus. Et la fois prochaine, nous progresserons dans la suite des paraboles qu'il nous reste encore à voir. Donc, sur le tableau 37, vous voyez les ouvriers de la 11e heure, qu'on connaît bien, les vignerons homicides, qu'on a déjà évoqué, donc j'irai un peu plus vite. Et puis, nous ne manquerons pas d'accorder le temps nécessaire, notamment à la parabole 37, le bon samaritain, quand même, qui est importante, et que le pape François met bien en évidence sa portée dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti. Et ça, nous le verrons en son temps. Voilà, merci de votre attention, et encore mes excuses pour le fait que cette leçon ait dû être postposée, mais je crois que cette fois-ci, ça a marché.